12h30 sur France Culture, c'est le journal. On retrouve Ilan Malka.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui en session extraordinaire pour aborder la Biélorussie. Faut-il prendre des sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko ? Nous ferons le point avec Jérémy Audouard. Fin de crise pour Ascoval. La Syrie, qui est située à Saint-Saulve dans le Nord, voit une solution se dessiner après des années d'incertitude. Bercy a validé hier soir sa reprise par un Britannique, Liberty Steel. Précision à suivre, signée Annabelle Grelier. Le gouvernement français annonce des mesures pour aider les agriculteurs français à traverser les épisodes de sécheresse qui ne cessent de se répéter. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a détaillé ce matin ces mesures. Une part significative du volet agricole du plan de relance sera ainsi consacrée à l'adaptation de nos cultures au changement climatique. Anne-Laure Jumet nous en dira plus dans cette édition. En Biélorussie, des centaines de contestataires ont été libérés après avoir été détenus en prison suite aux manifestations contre la réélection d'Alexandre Loukachenko. Ils affirment avoir subi diverses tortures, avoir été également privés d'eau, de nourriture et de sommeil en détention. Dans un communiqué, l'ONG Amnesty International a rapporté des cas de manifestants mis à nu, battus et menacés de viol lors de leur détention dans les geôles du régime. Aujourd'hui, les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent pour aborder en session extraordinaire la situation en Biélorussie. Mais Jérémy Audouard, que peut concrètement l'Union européenne ?
L'Union européenne pourrait tout d'abord instaurer une série de sanctions. C'est d'ailleurs l'option principale défendue par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Cela pourrait se traduire par le gel d'avoirs de responsables biélorusses ou encore de leur bannissement de l'Union européenne. La Hongrie serait opposée à ces mesures. L'enjeu est donc de savoir si maintenant Budapest va décider ou non d'apposer son veto. Car il y a des risques avec ces sanctions. La Biélorussie pourrait se tourner encore davantage vers son grand voisin, la Russie. Des sanctions européennes allégées sont déjà d'application sur les armes et la vente de matériel de sécurité sensible. D'autres États préféreraient plutôt l'option diplomatique. Il s'agit de pays géographiquement proches de la Biélorussie, l'Estonie, la Lettonie, la Finlande et surtout la Pologne. Varsovie voudrait bien jouer le rôle de médiateur pour tenter de faire dialoguer le régime de Loukachenko et l'opposition. Un moyen aussi pour la Pologne de s'impliquer de manière inédite et de renforcer son influence dans l'Est de l'Europe. La réunion de cet après-midi vise donc surtout à calmer le jeu, mais risque de ne pas répondre à l'urgence. Les réunions en visioconférence ne permettent en effet pas d'acter de grandes décisions. Les ministres des Affaires étrangères vont d'abord mettre en place des commissions pour tenter d'esquisser des solutions.
Et au sujet de la Biélorussie, toujours la candidate d'opposition à la présidentielle, Svetlana Tikhanovskaya, aujourd'hui exilée, appelle à des manifestations pacifiques de masse durant le week-end prochain. Les réactions internationales sont de plus en plus nombreuses après l'annonce de cet accord de paix hier entre Israël et les Émirats Arabes Unis. On rappelle que le régime d'Abu Dhabi a accepté d'avoir des échanges avec l'État hébreu en échange de la suspension par celui-ci de son plan d'annexion de la Cisjordanie. L'Iran dénonce ce matin une stupidité stratégique. De son côté, la Turquie accuse les Émirats, je cite, de trahir la cause palestinienne pour servir ses petits intérêts. Enfin, pour l'Allemagne, qui a réagi ce matin également, l'accord Israël-Émirats est une contribution importante à la paix dans la région. À Beyrouth, le porte-hélicoptère Tonnerre a accosté ce matin. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Armées française Florence Parly. Le navire français avait quitté Toulon la semaine dernière pour apporter justement de l'aide au Liban suite à la double explosion meurtrière du 4 août. Aurélien Colli est notre correspondant sur place.
Le symbole est fort, le porte-hélicoptère Tonnerre avec ses 200 mètres de long et ses 30 mètres de haut à quai au milieu du port de Beyrouth dévasté. Et la ministre des Armées Florence Parly à bord pour afficher le soutien de la France au Liban pendant que des tonnes de matériel sont sorties des soutes du navire. 75 000 rations de combat et de l'eau pour l'armée libanaise, plus d'une centaine de tonnes de farine ou de blé car les stocks libanais qui étaient dans des silos sur le port ont été détruits. Il y a aussi de l'aide médicale et alimentaire et des matériaux de reconstruction, du plâtre, du verre ou encore de l'aluminium. À bord du Tonnerre également 750 militaires, dont 400 soldats du génie, qui vont participer aux opérations de déblaiement et de réhabilitation du port. Le capitaine Étienne, porte-parole de la marine française.
Faire des travaux de remblai, des travaux de dégagement des quais, voire de reconstruction, que ce soit dans des travaux sous-marins ou des travaux à quai, voire sur des installations, des bâtiments, pour pouvoir permettre à la remise en état des différentes installations jugées comme prioritaires par les autorités libanaises.
Le porte-hélicoptère Tonnerre va rester au Liban. Il sera rejoint ce week-end par un autre navire affrété par la marine française, le Calao, qui transporte lui des engins de chantier et du matériel lourd.
Aurélien Colli. La Pologne est entrée officiellement en récession pour la première fois depuis le communisme. Son produit intérieur brut a baissé de 7,9% au deuxième trimestre 2020 sur un an et de 8,9% par rapport au trimestre précédent. C'est l'un des pays qui a été jugé le plus efficace dans sa lutte contre la Covid-19 et pourtant il n'en a pas fini avec la pandémie. La Nouvelle-Zélande prolonge aujourd'hui le nouveau confinement de la ville d'Auckland, la plus grande ville du pays, qui va donc connaître une réglementation stricte jusqu'au 26 août afin de prévenir une deuxième vague de coronavirus dont l'origine est à ce jour inconnue. La Nouvelle-Zélande n'a jusqu'ici enregistré que 22 décès dus au coronavirus sur son sol pour une population de 5 millions d'habitants. On l'a appris hier, les voyageurs arrivant de France au Royaume-Uni vont devoir observer dorénavant une quarantaine de 2 semaines. Ce sont quelques 160 000 vacanciers britanniques en France qui devraient être affectés prochainement par ces nouvelles mesures. Comment l'État français a-t-il protégé les Français du coronavirus au plus fort de l'épidémie? Que sait-on vraiment du stock de masques qui était disponible alors pour protéger notamment les soignants? L'agence Santé publique France n'a toujours pas dévoilé d'informations à ce sujet, alors que c'est bien elle qui est chargée de gérer les stocks stratégiques de l'État. Depuis ce matin, un juge administratif est saisi de ces questions. L'avocat de plusieurs plaignants qui ont été atteints par le nouveau coronavirus ou qui ont perdu des proches s'est tourné vers la justice pour faire la lumière sur l'état des stocks de masques depuis janvier. Maître Fabrice Divizio défend donc plusieurs victimes qui poursuivent à présent 3 ministres devant la Cour de justice de la République. On l'écoute.
La véritable question qui demeure en suspens, c'est combien d'unités ont été commandées par l'État. L'État, ça comprend la Direction Générale de la Santé et Santé Publique France. La Direction Générale de la Santé, on a eu les chiffres donc récemment, puisqu'on sait qu'ils ont commandé donc environ 30 millions d'unités, un peu plus, autour du 17 mars. On a les dates, on a les quantités. Mais Santé Publique France se refuse à nous donner la moindre information. On se refuse catégoriquement, en opposant le secret des affaires, à nous dire si, oui ou non, des masques ont été commandés, en quelle quantité et à quelle date. Or, ces informations, elles sont absolument indispensables parce qu'elles sont de nature à caractériser ou non l'infraction qui est reprochée donc au ministre et pour laquelle mes clients sont entendus le 9 septembre devant la Cour de justice de la République. On a besoin de savoir si, oui ou non, l'État a commandé des masques suffisamment. À quelle date, combien d'unités effectivement, tout ça, c'est absolument indispensable. Et on est étonné, si vous voulez, que Santé publique France oppose le secret des affaires, alors que la commission d'accès aux documents administratifs vient de dire que ça n'était pas opposable, qu'il ne pouvait pas opposer, en fait, ce fameux secret. Alors du coup, un petit peu épuisé d'attendre, parce qu'il y a urgence maintenant, mes clients sont convoqués le 9 septembre. Nous, on a saisi le juge administratif, donc étant référé, pour précisément ordonner la communication des bons de commande de masques par Santé publique France.
Propos recueillis par Tara Schlegel. Y a-t-il enfin de la lumière au bout du tunnel pour la scierie d'Ascoval située à Saint-Saulve dans le Nord? Oui, il semble. Bercy a validé sa reprise par un groupe britannique de sidérurgie qui s'appelle Liberty Steel et qui va également reprendre l'usine de rail d'Hayange. Cette annonce devrait donc enfin marquer le point final de plusieurs années d'incertitude pour Ascoval qui emploie 300 salariés. Il s'agit de l'un des principaux dossiers industriels depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Ilan.
Peut-on croire donc à une sortie de crise enfin?
C'est l'épilogue d'un long feuilleton sur le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui cette fois a mis un peu de temps, c'est vrai, à valider l'offre de reprise, histoire d'être sûr que Liberty Steel avait les reins assez solides. Rappelons que les 2 derniers candidats à la reprise, le franco-belge Altifort est aujourd'hui en redressement judiciaire et British Steel est en faillite. Cette fois donc, devrait être la bonne, en tout cas les salariés sont rassurés. Nassim Banim est délégué CGT à Ascoval.
On est soulagé, mais l'état d'esprit, c'est que maintenant, avec tout ce qu'on a enduré depuis quelques années, on est vigilant, on restera vigilant. Donc on est repris par un groupe de renommée internationale. C'est une bonne nouvelle pour les salariés. Et il faut remercier les salariés parce qu'ils ont été patients. M. Gupta, qui est le propriétaire de Liberty, il a confiance en nous. Il a confiance en nos produits. Il sait qu'avec ce qu'on va faire comme acier, ça va
permettre de fabriquer de l'acier plus propre en termes d'écologie.
Le groupe indo-britannique Liberty Steel s'est engagé pour 65 millions d'euros de financement nouveau. Bruno Le Maire estime cette reprise exemplaire des enjeux de relocalisation et de décarbonisation de notre industrie, un symbole de la reconquête industrielle française, n'hésite-t-il pas à dire. À préciser tout de même que Ascoval n'a plus rien de français. La CGT réclame d'ailleurs à l'État de prendre une participation, même minoritaire, dans le capital de l'entreprise.
Merci à vous, Annabelle Grelier. Accompagner les agriculteurs face à des épisodes de sécheresse qui ne cessent de se répéter, c'est l'ambition annoncée ce matin par le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui évoque des mesures exceptionnelles. Il y aura notamment des indemnisations pour calamités, mais aussi tout un volet agricole consacré au changement climatique dans le cadre du plan de relance de l'économie qui sera présenté le 25 août. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Vous êtes chef du service économie de France Culture. Alors, que sait-on déjà concrètement des mesures qui doivent être adoptées?
Alors, il y a des aides d'urgence pour pallier notamment les coûts supplémentaires liés à la sécheresse, par exemple l'achat de fourrage pour l'alimentation du bétail. Aide détaillée ce matin par Julien de Normandie chez nos confrères de France Info.
Ces aides, c'est par exemple de pouvoir verser des acomptes de la politique agricole commune plus élevés que d'habitude. C'est de pouvoir avoir des dégrèvements sur la taxe foncière que payent les agriculteurs dans les régions les plus sinistrées. Ça, nous allons le mettre en place, je vous l'annonce, et nous en avons encore discuté hier avec le ministre des Comptes publics.
Julien de Normandie annonce aussi, vous le disiez, l'ouverture du régime d'indemnisation pour calamité agricole. Une aide bienvenue, selon Patrick Bénézy, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Attention toutefois, dit-il, à ne pas laisser certains agriculteurs sur le bord du chemin.
Lorsque le dispositif des calamités agricoles est enclenché, ça donne lieu à des expertises sur le terrain qui permettent de dégager des taux de perte. Et en fonction de ces taux de perte, l'administration décide ou pas de classer une zone en sécheresse, en calamité ou pas, et d'activer le fonds qui va avec. Nous avons malheureusement des éleveurs pour X raisons qui ne remplissent pas telle ou telle case. C'est pour cela que nous demandons au ministre de faire en sorte que les barrières qui peuvent avoir lieu au niveau du fonds calamité puissent être levées de manière à ce que tous les éleveurs qui ont les taux de perte requis puisse rentrer dans ce régime.
Enfin, le gouvernement entend doter l'agriculture de moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Recherche sur des semences, amélioration de la gestion de l'eau notamment. Ça, ce sera dans le futur plan de relance. Mais on ne connaît pas encore le montant de l'enveloppe qui sera allouée à cette question.
Merci à vous, Anne-Laure Jumet. Aujourd'hui, à 13h, le Conseil des mosquées du Rhône appelle à un rassemblement devant une salle de prière à Lyon, située dans le 2e arrondissement. Le lieu a été légèrement endommagé par un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi. Le sinistre est probablement d'origine criminelle et il s'agit du 2e de ce type en une semaine qui vise un lieu de culture musulman dans l'agglomération lyonnaise. Pour Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, ces actes de racisme sont en hausse en France. Il se dit inquiet.
Alors, l'an dernier déjà, nous avions une forte augmentation des actes anti-musulmans puisque nous avions noté une augmentation de 36%. Et donc cette recrudescence qu'on a constatée à Lyon, elle est hélas inscrite dans une tendance de moyen terme que nous avions vue l'an dernier. Donc oui, moi je suis relativement inquiet de ces augmentations, sachant que il y a d'autres augmentations d'actes de haine à l'égard de personnes LGBT ou c'est aussi le cas pour les actes antisémites. Donc on est sur une progression des manifestations de haine, les actes, les discours. Et je crois que la crise sanitaire nous l'avait peut-être fait oublier.
Et le préfet du Rhône a tenu une réunion hier justement avec les représentants du culte du musulman dans le département. Frédéric Potier, vous êtes délégué interministériel à la lutte contre l'antisémitisme également. Ces derniers jours à Paris, un homme de 29 ans a porté plainte, frappé, insulté par deux hommes. Je cite leurs propos, sale juif, sale race. Suivez-vous l'enquête? Savez-vous où ça en est?
C'est une enquête qui est en train de se dérouler, donc je peux pas la commenter. Et évidemment, elle a créé une forte émotion, s'en prendre à un jeune homme qui allait, je crois, chercher sa fille qu'on s'attaque à lui en raison notamment de sa religion, c'est évidemment tout à fait scandaleux, tout à fait insupportable. Et donc là encore, on s'inscrit dans quelque chose qui n'est pas nouveau. Hélas, l'antisémitisme, il est très présent en France.
Et il est en hausse.
Il a augmenté ces dernières années, oui, il est en forte hausse. Cette année, il était en hausse de plus de 30%. L'année précédente, c'était 74%. Donc là encore, on est sur une tendance de forte augmentation de ces actes antisémites. S'attaquer à des personnes en raison de leur religion, c'est s'attaquer finalement aux valeurs de la République.
Frédéric Potier, interviewé donc par Lauriane Delanoë sur France Info. Cet après-midi, risque d'orage sur le quart nord-est. Ça concerne notamment le Grand Est et les Hauts-de-France. Il y aura de petites averses également sur la Normandie et sur l'Île-de-France. Les températures partiront de 20 degrés à Cherbourg et elles monteront jusqu'à 31 à Perpignan. Édition préparée avec Brice Garcia, réalisée à la technique par Jean-Guilain Meige.